Louis Albrand a grandi dans une ferme à Saint-Crépin. Il connaît bien la vie des paysans des Hautes-Alpes dans les années 50 et a créé une collection d'objets qu'il a partagés sur les réseaux sociaux. Cette passion de l'histoire du terroir l'a conduit à étudier les archives du département et à retrouver la trace des femmes et des hommes qui ont marqué notre territoire à travers les âges. Il les évoque ici en descendant le cours de la Durance. Il nous présente chaque semaine la biographie de chaque personnage de ce territoire alpin sur Fréquence Mistral. Au micro de Laura Giraud.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Fréquence Mistral. Nous avons le plaisir de retrouver Louis Albrand. Bonjour Louis.
Bonjour. Nous allons parler aujourd'hui, après avoir parlé dans les émissions précédentes, du grand Lesdiguières, le grand champsaurin, de Lacazette. Lacazette est un homme qui est né à Oulx. Oulx est une petite ville des Alpes franco-piémontaises. Aujourd'hui, on connaît Oulx car on va y prendre le train pour aller à Paris. Mais son nom a toujours été lié à des guerres. Les anciens le désignaient comme le dieu du Mars Ultor, qui était un dieu combattant. Plus tard, au Moyen-Âge, après le passage des Sarrasins, l'abbaye de Saint-Laurent-d'Oulx jouit d'un grand rayonnement spirituel. Il bâtit d'autres centres religieux dans le sud de la France, notamment la fameuse chapelle du lac de Serre-Ponçon. Ils avaient leur vigne à Réautier, à Saint-Grépin. Les moines d'Oulx ont toujours eu un grand rôle. Aujourd'hui, ces temps sombres ont disparu, mais revenons un peu à l'époque de Lesdiguières, à ces fameuses guerres de religion du XVIe siècle qui ont vraiment créé de grands drames. Il y a là un personnage assez énigmatique auquel les historiens se sont peu intéressés. Il s'agit de Jean Borel, dit sieur de Lacazette. Il est né donc en 1520 à Oulx. Il est le fils du notaire royal Jean Arlot et l'aîné de 4 enfants. Très tôt, il est attiré par le métier des armes. Il devient gouverneur de Briançonnet avec 1500 soldats. Il s'est battu contre les Huguenots venant de Pragelas qui avaient brûlé l'abbaye de Saint-Laurent-d'Oulx. Les Huguenots avaient dû se retirer avec des pertes importantes. À partir de 1563, Lacazette défend le Briançonnet avec succès. En 1569, il contribue à reconquérir Exil et en devenir le gouverneur jusqu'en 1581. En 1580, il a délivré Briançon, assiégé par le commandant protestant Jean Niel. À la fin du règne de Henri III, il est nommé lieutenant général du Briançonnet, c'est dire son importance. Donc c'est un chef catholique et qui va être confronté donc au terrible Lesdiguières. Il s'agit du grand chef catholique du territoire frontalier. La vie de Lacazette est marquée par des guerres, à la fois contre les Habsbourg, les Écossais, les Anglais, les Espagnols. Il est toujours fidèle au roi de France, mais il aura une erreur politique, c'est son amitié avec le duc de Guise. En 1546, il épouse Jeanne, l'évêque de Sisteron, où il bâtit d'ailleurs une demeure à la confluence de la Durance et du Buèche. Cette maison sera brûlée par les protestants. Il existe un seul portrait de cet homme qui est propriété de la famille des Audiard des Ambrois à Oulx. On le voit, crâne rasé, regard pénétrant, superbe armure, épée et lance à portée de main. On l'imagine fougueux, impatient, bagarreur, sensible au plaisir de la chair et de la vie. Donc, cette vie va être brisée un soir du 15 juillet 1590. Lacazette est chez lui, à Oulx, on voit encore sa maison, dans la grande rue piétonne. Il est entouré de sa famille, de sa fille Éléonore, qu'il chérit, de ses petits-fils, Laurent et Henri, de ses neveux. Sa garde du corps, composée de 24 hommes, a été mis en liberté. On leur a dit qu'ils pouvaient rentrer. La nuit s'annonce tranquille. Elle va se transformer en cauchemar sanglant. On dort déjà, les gens d'Oulx sont déjà endormis dans ce quartier. Personne, sauf les conspirateurs protestants ne peuvent imaginer que 24 solides soldats huguenots sous les ordres du capitaine embruné Dupont, marchent depuis des heures à partir d'Embrun et ont traversé la Durance, les montagnes, pour venir en finir avec le vieux chef catholique. L'attaque est rapide et efficace. Personne ne s'y attend et le bruit de la poudre à canon utilisée pendant l'assaut terrorise les habitants des voisins qui n'osent bouger. Côté jardin, deux jeunes petits-fils, les Férus, auront la vie sauve pour avoir pu se cacher en grimpant dans un noyer. D'autres membres de la famille n'auront pas cette chance. Le vieux meneur d'hommes, avec son courage habituel, fait face aux ennemis, muni de quelques armes. Il s'attend au retour de ses hommes, mais personne ne vient à son secours. On comptera 22 blessures mortelles sur son corps. Il y aura d'autres morts inconnues. Les Huguenots trouveront dans le potager le petit-fils Laurent Féru, son épouse Isabelle de Serres et nombre domestiques. Ils seront tous menés à Embrun comme trophée de chasse. On ne connaît pas la destination finale de ce grand chef catholique de La Cazette. Probablement, la tension religieuse et politique de l'époque n'ont pas permis de lui donner une honorable sépulture. L'assassinat de La Cazette, à Oulx, est là pour nous rappeler la brutalité des guerres de religion dans nos vallées au XVIe siècle.
Merci beaucoup, Louis Elbrun.